بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم, رب زدنا علما يا كريم, رب زدنا علما يا كريم, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Il nous restait à voir quelques points concernant le fait de rester ferme, de le dîner d'Allah. C'est ce qu'Allah attend de nous, de respecter sa religion. On a déjà expliqué à maintes et maintes reprises et qu'on a espoir que la réalité pénètre nos cœurs maintenant. Donc, Allah nous protège et Allah attend de chaque croyant qu'il protège et préserve sa pratique du dîner. Ensuite, le cheikh, pour clôturer l'étude de ce nom d'Allah, il cite quelques a'mal, quelques actions qu'il est essentiel, pour le croyant d'accomplir au quotidien pour espérer être parmi ceux qui préservent la religion d'Allah. Alors sans surprise, la première action que Cheikh va citer, c'est la salat, avec comme verset « Hafidhu ala salawati wa salatil wusta » et également dans la surat al-Ma'arij « Walladhinahum ala salatihim yuhafidhun » ces deux versets qui rappellent l'importance de la salat et le fait que walladhinahum ala salatihim yuhafidhun, c'est un ensemble de versets comme il y a souvent dans le Coran où Allah cite les qualités des pieux, de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été agréés, ceux qui ont été acceptés par Allah, et notre Rabb Azza wa Jal nous donne les sifat, leurs qualités, les actions qu'ils faisaient au quotidien. Et le verset qui a été cité, c'est walladhinahum ala salatihim yuhafidhun. On a également dans la sourate al-mu'minun, qad aflaha al-mu'minun, on parle des croyants, les croyants pieux qui ont le falah. Falah, c'est le succès. Et la première qualité qui a été citée, c'est alladhinahum ala salatihim yuhafidhun, ceux qui sont fermes et comment c'était traduit, endurants, il me semble, dans la pratique de leur salah. Hada. Naam. Et puis on peut faire un parallèle avec les derniers versets de la sourate, enfin les derniers versets, oui pas le dernier, mais les derniers versets, les 10 derniers versets de la sourate Al-Muddathir qu'on a complété la semaine dernière, bi'idnillahi ta'ala, où Allah Rabbul Izza nous révèle les excuses et les raisons plutôt pour lesquelles les gens de l'enfer sont dans l'enfer. Pourquoi est-ce que certaines personnes sont en enfer et qu'une situation de l'au-delà où des croyants demandent à converser, à échanger avec des gens de l'enfer pour savoir qu'est-ce qui fait qu'ils sont arrivés au plus profond de l'enfer. Et d'où le fameux verset « Ma salakakum fi saqar ». Pourquoi est-ce que vous êtes tombés dans l'enfer, traduction approximative. Et la première chose, la première raison, « Qalu lam naku min al-musallin ». Nous n'étions pas parmi ceux qui priaient. Les savants disent, voyez l'importance de la salat, avec les versets qui rappellent que c'est une qualité essentielle pour être agréé et accepté par Allah. Et attention, en même temps, la négligence de cette salat peut avoir comme conséquence directe, salam barakat, qu'on peut avoir comme conséquence directe, al-wuqu' fi jahannam qu'Allah nous protège, le fait de tomber et d'être parmi les gens qui entrent dans le jahannam qu'Allah nous protège. Donc, cher, cite première action, l'assiduité au salat. On ne peut pas être un pieux croyant, être une personne qui protège, qui préserve sa religion, sans salat. S'il n'y a pas de salat, tout ce qu'il y a autour comme bonne action, c'est que du blabla, que du pipeau, que des discours sans intérêt. Si je ne prie pas, mais que je m'engage dans le social, d'accord ? Je veux aider, je fais des camions de colis alimentaires, je creuse des puits, je viens en aide aux gens. Mashallah, ce sont de belles actions. Peut-être que nous, on n'a pas l'occasion d'accomplir, mais si tu ne fais pas ta salat, ça ne sert à rien. La base, c'est la salat. Naam, qu'Allah nous accorde la fermeté, et ce n'est pas le but de développer le lien du croyant avec la salat. Ce sont des choses connues, mais on a, à mon humble avis, grandement besoin de travailler également notre salat. Travailler notre salat, de quelle façon? En développant la concentration, la dévotion. Et je pense qu'il vous est tous déjà arrivé de prier une salat comme ça avec une grande concentration où vous trouvez vraiment une dévotion de la salat, et des fois la salat Allah musta'an, l'esprit est évasif, on pense à plein de choses, on se trompe du coup dans le nombre de rakats, on ne sait plus qu'est-ce qu'on a lu, qu'est-ce qu'on n'a pas lu, parce qu'il n'y avait pas de concentration. Et qu'est-ce qui nous permet d'être concentrés dans la salah? Parce que, en fait, la clé, la concentration dans la salah, nous permet d'obtenir les bénéfices, j'allais dire directs et indirects de la salah. Il y a le fait de s'acquitter de son devoir, son pilier. D'accord? Mais la personne qui est assidue au salah, obtient d'autres faveurs de la part d'Allah Rabbul Izzah, un cœur qui reste de la pensée d'Allah en permanence. D'où le verset, Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Des versets qu'on cite, on rappelle tout le temps, c'est un rappel pour nous-mêmes. Je me pose la question, qu'est-ce qui fait que j'ai beaucoup de mal à résister au péché, j'ai beaucoup de mal à baisser mon regard, j'ai beaucoup de mal à ne pas écouter certaines choses que le croyant ne doit pas écouter, à regarder ce que le croyant ne doit pas regarder. À mon humble avis, si on veut avoir cette force, pas mentale, hein, cette force spirituelle pour résister aux tentations de Shaytan, il faut qu'on travaille notre salat. Parce qu'un cœur qui fait preuve de khushu, de dévotion, et qui se soumet à Allah, qui reconnaît et qui ressent la grandeur d'Allah dans chaque Allahu Akbar, dans chaque Sami'a Allahu liman hamida, et il a yakin sur Sami'a. Sami'a qui veut dire entendre. Allah a entendu la personne qui a fait ses louanges. Chaque fois que tu te relèves du Sami'a Allahu liman hamida, tu as cet espoir qu'Allah m'a entendu, a entendu tout ce que j'ai dit. J'ai dit Alhamdulillahi Rabbil Alameen, j'ai dit Ar-Rahman Ar-Rahim, j'ai dit Oh Allah, tu es Maliki Yawmiddin, et ainsi de suite. Et quand Allah a entendu ce Subhan Rabbil Azim, tout ça, ce sont des notions, et je trouve que c'est vraiment dommage que très souvent on passe à côté de la salah. L'étude des adhkar de la salah est importante. Tout comme l'étude de la lecture, bien sûr, Al-Fatiha et les différents versets qu'on a l'habitude de lire, si on arrive à joindre la compréhension à l'action, subhanallah, c'est là qu'on a vraiment, on a la possibilité d'obtenir la concentration. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'on peut avoir une personne qui a la connaissance religieuse, on peut avoir une personne qui connaît l'arabe, sur le bout des doigts, un arabophone, on est un qatari, on est un mirati, on est un... et ainsi de suite, ils connaissent l'arabe sur le bout des doigts. Mais est-ce que ça veut dire forcément que celui qui connaît l'arabe va être concentré à fond dans sa salah parce qu'il comprend la lecture de l'imam? Non, ça ne marche pas comme ça. Combien de personnes parlent l'arabe couramment, mais ils ne prient pas, et Allah est le seul juge. C'est-à-dire que la compréhension de ce que l'imam lit n'est pas suffisante. Deuxième palier, la personne a étudié la connaissance religieuse. Il connaît le tafsir, il connaît les versets, il comprend. Est-ce que forcément ça veut dire qu'il va être concentré dans chaque salat? Parce que au-delà de comprendre, il connaît le sens, le ma'na, le sens des versets. On peut se dire que oui, lui il a deux clés. Il a la première clé qui permet une compréhension globale, la deuxième clé qui permet une véritable compréhension. On se dit que c'est sûr, lui, je suis admiratif, cette personne a tellement la chance, il comprend tout. Non. Cette concentration pourra s'installer dans son cœur bi tawfiqin min Allah, si Allah le veut bien, si Allah l'accepte. Et à partir du moment où la personne fait l'effort d'abandonner les péchés, parce qu'un cœur et un corps qui vit, qui évolue dans le péché du matin au soir, vous pensez qu'à un moment donné il commence à prier parce qu'il connaît, parce qu'il comprend, il va trouver le haut degré de concentration, les larmes vont couler, il va frémir en entendant le nom d'Allah? Ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un travail à faire sur nous au quotidien. Et le résultat du mujahadatun nafs, j'allais dire un autre mot, mais je préfère passer au... C'est une même racine. Le résultat de cet effort qu'on fait sur soi-même, là où on voit le natija, le résultat, ce qui est révélateur, c'est la salah. Quel est ton degré de concentration et de dévotion dans ta salah? Et ça, c'est moi qui rajoute, la qualité de tes doigts, la qualité de tes invocations. Est-ce que tu demandes à Allah des doigts avec concentration, avec cœur, avec conviction? Il y a des fois où quand on fait doigts, on ne veut plus s'arrêter. Ça, c'est tout simplement magnifique. Et quand on ne veut plus s'arrêter, qu'est-ce qu'il faut faire? D'une aide. Propose quelque chose, sois productif. Quand on fait doigts, et que tu sens que ça vient, tu demandes plein de choses et que tu ne veux plus t'arrêter, qu'est-ce qu'il faut faire? L'autre d'une aide, oui? Hein? Mais il ne faut pas s'arrêter. Mais c'était plus simple. Vous allez vers des trucs trop philosophiques. Quand tu vois que des doigts ils sortent, et tu es en train de demander des doigts pour ton grand-père qui est décédé il y a 40 ans, tu l'as jamais vu. Tu es en train de demander des doigts pour tous les frères de ta maman, les gens et tout. C'est que Allah est en train de t'inspirer des choses. Allah est en train de t'ouvrir les portes de doigts. Tu es en train de demander avec cœur. Quand tu sens que la connexion, elle est là, tu as du, je ne sais pas combien de mégas, combien de gigas, je ne sais pas comment ça se dit, n'arrête pas. Fais autant de doigts que possible. Pense à ta famille, tes enfants, pense à l'avenir de tes enfants, des choses que parfois, ça nous est déjà peut-être arrivé. Si ce n'est pas le cas, ça nous arrivera, Inch'Allah, bientôt. Vous allez à Makkah al-Mukarrama, vous allez faire l'Umrah, vous avez préparé votre liste de doigts, je vais demander ça premièrement ça, deuxième doigt sera ça, troisième sera ça, quatrième sera ça, ainsi de suite. Vous arrivez devant la Kaaba, il n'y a rien de ces doigts qui sort, il y a d'autres choses. Et une émotion, waouh, c'est qu'Allah nous permet de connaître ces moments bientôt. Quand Allah ouvre ton cœur pour le doigt, prends et ne t'arrête pas. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui peut être accepté à cet instant. Et le fait de faire doigt avec humilité et dévotion, ça augmente le iman d'une façon extraordinaire. Et comme on l'avait dit l'autre fois, et c'est le fait d'avoir demandé plein de choses, et qu'après tes doigts, tu te rends compte que 99% de ce que j'ai demandé, j'ai pas vu la couleur, et que tu te dis que je m'en remets à Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Et je suis persuadé qu'Allah, Allahu latifun bi'ibadi. Allah est bienveillant envers ses serviteurs. Allah donne ce qu'il veut à qui il veut quand il y a un khair. Et que tu te dis que j'ai rien eu de ce que j'ai demandé. Et ça fait des mois que je demande ça, des années peut-être que je demande ça. Allah ne me l'accorde pas, mais je sais que mon Seigneur est bienveillant envers moi. Il est tellement Rahman, Rahim qu'il a déjà préparé quelque chose de mieux pour moi. Et tu continues à faire les mêmes doigts. Ça augmente ta foi, mais de façon extraordinaire. Cette façon de ce istislam, cette soumission à Allah, qu'Allah te donne, tu remercies. Qu'Allah ne te donne pas, tu le remercies aussi. Ça prouve que ta vie est pour Allah. Tu appartiens à Allah. Tu as compris que ton existence est pour ton Seigneur Azza wa Jal. Qu'Allah nous accorde cet état de iman spirituel. Allez, on revient. Allahumma amin. Je referme le dossier de la salat. Et deuxième action que le cheikh cite, j'étais un peu surpris, et ça fait partie des actions qui sont, après chacun connaît ses pratiques, mais on ne fait plus tadrib sur cette action-là. Al-muhafaza ala al-wudu, rester en état d'ablution. Ouais, on n'entend plus trop parler de ça. Wala yuhafizu ala al-wudu illa mu'minun, hadith de Ibn Majah, authentifiquement Albani. Il dit que celui qui reste ferme, enfin comment on dit ça, celui qui garde son wudu, qui renouvelle tout le temps ses ablutions, c'est une qualité du mu'min, c'est une qualité du croyant. Et quand on parle de mu'min, hein, ça veut pas dire muslim. Quand on parle de mu'min, c'est pas le musulman, non, c'est le croyant pieux. D'accord? Et il y a 8 ans de cela, il y avait Cheikh Arifi qui était venu à la Réunion, pour ceux qui s'en souviennent. Et donc, on allait de ville en ville, rendre visite et ainsi de suite. Et à chaque fois que c'était là de la salah, Cheikh, tu t'en vas te voir? Il a dit non, j'ai déjà les ablutions. Il y a des gens comme ça, ils gardent le wuzu autant que possible. Et s'il y a une nécessité, ils renouvellent le wuzu immédiatement. C'est-à-dire du matin au soir en état d'ablution. Ce qui leur permet de n'importe quel endroit, besoin de faire leur salah, ben khalas, c'est plus simple. Mais également, c'est une ibadah permanente. C'est une ibadah qui est permanente. Donc, bon, c'est pas le plus important, hein, c'est clair. D'accord? C'est pas au niveau de la salah. Mais le cheikh l'a cité parce que c'est dans un grand hadith qui parle de la salah et qui mentionne également les ablutions. Hada. Naam. Et il dit donc en la leçon retenue de ce hadith là d'Ibn Majah, il dit fal muhafazatu ala al wudu li salah dalilun ala thubut al iman fi al qalb. Surprenant, il dit le fait de rester ferme, de renouveler ces ablutions en permanence pour la salah, c'est une preuve que la foi elle est ancrée dans ton cœur. Après c'est vrai, si je suis dans une logique de péché, d'accord, si je recherche le haram et que je ne m'intéresse pas aux ordres d'Allah, ben je vais pas faire le wudu tout le temps. Le fait d'être toujours en état d'ablution, ça prouve qu'il y a une spiritualité, ça prouve qu'intérieurement tu recherches quelque chose, tu recherches l'agrément d'Allah de façon permanente. Naam. On passe au point suivant. وَمِمَّا يُؤْمَرُ بِحِفْظِهِ Al-Ayman, parmi les choses qu'il est important de préserver pour être ce bon croyant qui préserve sa religion, c'est respecter ses engagements. Respecter ses engagements. Là, on passe au mu'amala. J'ai promis quelque chose à quelqu'un, j'ai donné parole, et ainsi de suite. Respecter son engagement. On ne va pas développer ça, on a tous compris. Bon, on essaie de clôturer ça, Inch'Allah, ce soir, l'étude de ce nom d'Allah. Et là, on arrive à un point qui nous intéresse, enfin, qui nous concerne peut-être un peu plus. Et il dit que parmi ces qualités des croyants qui préservent la religion, celui qui préserve, là aussi, je découvre ce hadith que je ne connaissais pas, hadith de Tirmidhi, mais c'est un hadith qu'on n'entend pas souvent. Protéger sa tête, ra'suhu wa batnuhu, et son ventre, enfin littéralement ça veut dire ventre, d'accord, mais on va voir que ça veut dire l'intérieur. Et ra'suhu, c'est en fait c'est la tête, mais c'est imagé, c'est une métaphore, et on va voir l'explication. Alors là, ce qui me plaît, c'est le prophète alayhi salat wa salam dit une parole qui touche la réalité de la foi, a'malul qulub, les actions intérieures. Yaqulu alayhi salat wa salam, hadith de Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qala rasulullah sallallahu alayhi wa salam, istahyu min Allahi haqq al-haya. C'est quoi l'haya? La pudeur. La pudeur. Et qui me donne une définition de la pudeur? Junaid. On a une approche très simpliste, nous, de la pudeur. Quand on parle de la pudeur, en général, on pense au corps physique. Le fait de ne pas se découvrir devant les gens, et ainsi de suite. Ce qui est vrai. C'est la première compréhension de la pudeur. Et Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, était un homme rempli de pudeur. Une fois, le prophète, alayhi salat wa salam, était assis avec quelques compagnons et ses tibias étaient découverts. Jusqu'à un peu avant le genou, c'est-à-dire une partie de ses pieds. Et les sahaba venaient s'asseoir et parler avec lui. Quand Uthman est arrivé, il s'est assis, il s'est recouvert. Il dit, c'est un homme qui est rempli de haya. C'est un homme qui est rempli de haya. Et même les anges ont de la pudeur face à Uthman ibn Affan. Donc, ça c'est la première étape. La pudeur concernant le corps. Tant pour l'homme que pour la femme. D'accord? Tant pour l'homme que pour la femme. Et permettez-moi, enfin très souvent on parle de la tenue vestimentaire de la femme. Elle doit s'habiller correctement, responsable. Mais du côté des messieurs aussi, hein, et moi je fais la remarque souvent à mes élèves à la madrasa, en termes de pudeur, les garçons, je veux dire, il y a certains vêtements de sport, d'accord, de sport, de pantalons de sport, qui sont tellement serrés que ça devient moulant, pas du nom de famille, hein, ça prend la forme. Mais souvent, nous, on pense que non, pour une femme, il ne faut pas que ça prenne. Non, pour un homme, c'est la même chose. Le aura, qu'on appelle le satar aussi, pour un homme, pour une femme, c'est de la même importance. Le satar de la femme, elle est plus étendue, le satar de l'homme, moins, mais les cacher, c'est ne pas laisser apparaître, mais également faire en sorte que les vêtements soient amples et ne permet pas de distinguer la forme. Donc tout ça, ça fait partie d'une qualité de la foi, al-haya. Alors, justement, le prophète, alayhi salat wa sallam, dit aux sahaba, ressentez de la pudeur et de la honte face à votre Seigneur, mais il a dit, haqq al-haya, la véritable honte, la véritable pudeur. Les sahaba disent, qulna ya Rasulallah, inna nastahiyye, walhamdulillah. Au prophète d'Allah, c'est quelque chose que nous avons. Nous avons cette pudeur et nous avons honte devant notre Seigneur, alhamdulillah. Le prophète, alayhi salat wa sallam, dit, laysa dhalik, walakin al-istihya, min Allah haqq al-haya, ce n'est pas ça. Il a dit la véritable honte et pudeur devant notre Seigneur, c'est an tahfaz ar-ra'sa wa ma wa'a wal batn wa ma hawa. On va commencer par ces deux. Il a cité alayhi salat wa salam 4 ou 5 actions. Alors, protéger la tête ar-ra's, ça veut dire yadkhulu fihi hifz as-sam'i wal basari wal-lisani min al-muharramat. Cheikh explique que protéger sa tête, c'est une métaphore, comme j'ai dit, c'est un langage imagé, c'est que ce croyant fait toujours attention et protège ses oreilles, protège sa vue et sa langue contre toute chose qui est haram. Ça veut dire que tu as honte de ton Seigneur. C'est pas uniquement honte que tes vêtements, que ton corps apparaisse une partie du satar, non. C'est la véritable haya, c'est avoir honte de désobéir à Allah, avoir honte, cette pudeur qu'Allah puisse me voir, et Allah puisse me voir, Allah me voit de toute façon, alors que je suis en train de regarder quelque chose de pas bien. Qu'Allah me voit alors que je suis en train d'écouter quelque chose de mauvais. Qu'Allah me voit alors que je suis en train de prononcer une parole que le croyant n'a pas le droit de dire, une riba, une bohta, une namima, ou des paroles déplacées. Na'am. Moi, ce qui m'insupporte, c'est les gens qui parlent de la pluie du beau temps. J'ai déjà dit ça à plusieurs fois reprises. Hein. Les gens qui viennent dire, alors, quelle nouvelle? Qu'est-ce qu'ils racontent? Ils racontent pas rien, aucune nouvelle. Qu'on veut dire exactement? Ou demande-moi quelque chose. Non, ça, c'est quelque chose qui me met tellement mal à l'aise. Les gens qui viennent, qui, ils veulent juste parler. Mais pour moi, c'est du temps perdu. On ne parle pas de tout et de rien. On parle de quelque chose de précis. Si c'est din, c'est din. Alhamdulillah. Khair wa ni'ma. Si c'est quelque chose d'autre, mais dites, voilà. Je pense qu'on a des choses plus importantes à faire. Ça veut pas dire que vous restez sérieux tout le temps. On peut, mais je veux dire que voilà, quoi. Après, il y a des gens qui font perdre beaucoup de temps à discuter, à parler, à philosopher, à refaire le monde. Tu refais le monde, c'est toi qui dis. C'est pas toi maintenant, c'est Poutine. C'est bref, c'est pas toi qui fait, qui dirige. Alors, moi, j'ai dit, il faut commencer à prendre le russe. Bref. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Il y a des gens qui pensent que en échangeant, en parlant d'un problème, ils vont résoudre le problème. Qu'est-ce que tu apportes à cette dunya? Économise ton énergie, ne refais pas le monde, ne va pas dire que oui, ils auraient dû, ils n'auraient pas dû. Man anta. D'accord? Fais dhikrullah, parle de choses importantes qui te sont profitables. Allez, je ferme cette parenthèse. Donc ça c'est important, ça, cette prise de conscience que au moment où je vais regarder le haram ou écouter le haram, n'oublie pas qu'Allah est le premier qui te voit et il connaît ton intention avant même que tu la formules. Autant tu aurais honte de faire quelque chose de mal devant ton professeur, par exemple. Prenez n'importe quel élève, d'accord, n'importe quel élève. Moi, je vois bien cet élève qui marche de la rue avec sa copine, tantine. Mais s'il voit le moulissable, le fundi, tout de suite, il lâche la main. Non, il y a une pudeur, une gêne à le faire devant un professeur, devant quelqu'un pour qui on a du respect. Quelqu'un pour qui on a du respect. Mais celui pour qui on doit avoir le summum du respect, c'est pas notre Rabb, Al-Bari Azza wa Jal. Donc, on peut pas avoir un comportement incohérent. Quand il voit le fundi, le moulissable, là, il se retient, il ne va pas de les pécher. Mais n'oublie pas que c'est Allah qui te voit avant tout. En fait, ça c'est la base de l'iman. C'est quand le prophète dit avec Ibn Abbas, Yahfadillah, Yahfaduk. On a les mêmes noms. Al-Hafidh, celui qui protège, protège le dîn d'Allah, Allah te protégera. N'oublie jamais qu'Allah est là, il te voit, il t'entend, il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Donc, ne te mets pas dans une situation où Allah te voit dans le haram. Et donc là, en amont, comment est-ce que moi je peux prendre ça et l'appliquer dans ma vie avant chaque prise de parole, décision, avant de commettre quoi que ce soit, avant de faire quoi que ce soit, rappelle-toi qu'Allah est avec toi. Et donc, n'ouvre pas cette page internet, n'écoute pas ce morceau que tu aurais aimé écouter et ne fais pas cette chose qui n'est pas bien parce que Allah est déjà avec toi. Ça, c'est ce qu'on va dire, al-haya min Allah, avoir honte d'Allah. Ça fait partie des amal al-qulub. D'accord? Après, on veut pas développer ça, mais certains savants disent, je mets une petite pause, al-haya min Allah, c'est également avoir honte de désobéir à Allah, c'est parce qu'Allah te voit, c'est ton créateur, mais également, pense à tout ce qu'Allah t'a donné. Regarde tant de bienfaits qu'Allah t'a accordé. Allahu Akbar. Walillah, ilhamni amatul iman wa siha wa l'afia. Allah te donne la foi. Allah te permet de prier. Allah t'accepte pour venir dans sa maison. Allah t'a accordé une épouse. Allah t'a accordé des enfants. Allah t'a accordé un toit. Tu as une voiture. Tu manges, tu bois, tu marches. Mashallah, tu as des ni'ma. Allah te donne tout ça. Et toi, tu le désobéis comme ça, délibérément, sans honte. Ça, c'est de l'ingratitude. Et c'est impensable. Si je mets en place ce mode de pensée, ça, c'est la base de l'iman billah. C'est la base de croire en Allah. Croire en Allah, c'est pas juste tu te prosternes devant lui quand c'est l'heure. Non. Croire en Allah, c'est être en état d'adoration et de vigilance tout le temps. Pas uniquement quand c'est la salat, tu viens, tu te prosternes là, wallah. Qu'Allah nous accorde cette qualité. J'ai enlevé mon doigt, la pause est terminée. Bien, on continue. On est à combien de temps? Wal-lisan, ça on a lu. Wal-batna wa ma hawa. Al-batna, à la base, c'est quoi, Hudhayfa? Le ventre. Bien. Très bien. Wa hifdhu al-batni, yaqulu al-sheikh, yatadhammanu, ça englobe, hifdhu al-qalbi, عن الإصرار على محرم. C'est le fait de protéger la batn. C'est pas le sens du ventre, c'est al batn. C'est le sens de ce qui est intérieur. Protège ton cœur des péchés. Et le cheikh ne dit pas des péchés, de al-israr ala muharram. Protège ton cœur du fait de rester ou de développer une habitude au péché, d'être régulier, wallah musta'an, dans certains péchés. Et il rajoute que, et même si ces péchés-là sont considérés comme des sara et des dhulum, comme des petits péchés. Et il y a un hadith qui me revient, le prophète m'a cité, je ne sais pas si c'est un hadith ou un sahaba, je dois vérifier, si quelqu'un connaît, il me le dit, où la métaphore, il y a un exemple concernant les petits péchés, et c'est comme une personne qui va prendre plein de petites brindilles, et qui les rassemble, jusqu'à un moment donné, toutes ces petites brindilles lui permettent de faire un grand feu. C'est ça tous les petits péchés que tu fais au quotidien. Tu regardes un petit truc, tu écoutes quelque chose, et ainsi de suite. Des choses qui ne sont peut-être pas considérées comme des péchés majeurs, mais cumulées autant de petits péchés, ça peut créer une situation d'effondrement spirituel total. Qu'Allah nous protège. Naam. Et moi j'aime bien cette explication. Il dit pourquoi est-ce que la personne qui reste... Il y a des gens qui se disent que voilà, je connais, j'ai listé les péchés graves. Il y a des livres qui ont été écrits, Kitab al-Kaba'ir, où on a tous les péchés majeurs, avec les versets qui mettent en garde, les hadiths, ainsi de suite. Personne ne te dit, du coup, il y a quelques petits trucs que je fais au quotidien, mais c'est pas bien grave, Allah pardonne, et tout. Il dit que ce qui est grave, on va dire que, on doit revoir la notion de gravité. C'est pas uniquement par rapport à la gravité du péché. Non, ce qui est grave, c'est que tu t'autorises à être de la désobéissance d'Allah, de façon permanente et volontaire. Ça, c'est grave. Le zina, c'est grave, oui. Allah nous protège du zina. Consommer de l'argent haram, l'intérêt, c'est grave, oui. Allah nous protège d'utiliser l'argent haram. Rompre les liens avec les parents, avec la famille, c'est péché grave, oui. Allah nous protège. Ça, j'ai identifié. Mais ce n'est pas uniquement ça que je dois regarder en notion de gravité. Ce qui est grave, c'est que je m'autorise, je répète, que je m'autorise à désobéir à Allah tout le temps, tous les jours, petit peu, choya, régulièrement, mais volontairement. Ça, c'est grave. Parce que tu vas à l'encontre de ce qu'Allah attend de toi. Et ça, c'est pas la définition du croyant. Le muttaqi, l'homme qui est pieux, qui recherche la piété, c'est la personne qui recherche la proximité avec Allah tout le temps, en restant éloigné de tout haram. Et avec ce muraqabatullah, cette pensée permanente d'Allah, où la personne ne ferait jamais, mais jamais le moindre péché volontairement. Quand c'est involontaire, c'est autre chose. Mais volontairement, non. Donc, celui qui a des petites mauvaises habitudes, d'accord, le problème, c'est d'être dans la situation de désobéissance envers Allah tous les jours, tout le temps. Et ça, ce n'est pas possible. Et le cheikh cite le verset « وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَحْذَرُوا » On est dans la sourate Al-Baqarah. Et sachez qu'Allah sait ce qu'il y a au plus profond de vous. Donc, attention, faites attention. Et le verset également dans le 15e juz, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ilaika kana anhu mas'oula. On aura à répondre de tout ça, tout ce qui est cité le hadith et qui est repris et bien sûr de le verset à propos de la vue, l'ouïe et le cœur, tout ça on aura à répondre. Donc ça fait partie de al-haya min Allah. حق الحياة d'avoir vraiment honte de notre Seigneur Azza wa Jal. Naam. Il nous reste un petit passage, si vous permettez, il reste 2 minutes, on complète et après je vous annonce le prochain nom d'Allah qu'on va voir le lundi d'ensuite, Inch'Allah. Il dit également qu'il y a 3 niveaux, il y a 2, il y a le fait de protéger son intérieur et il dit qu'on peut le comprendre également au sens propre, le ventre, c'est faire en sorte que حفظه من إدخال الحرام إليه من المأكولات والمشروبات. Fait en sorte que on ne consomme rien d'illicite, ni nourriture ni boisson. Donc ça fait partie également de la honte, de haya min Allah, c'est de ne pas consommer quelque chose qui est haram. Et puis moi j'ai ma petite idée, mon approche également, parce que on essaie de rechercher la cohérence de la pratique. Il y a des gens qui sont tellement pointilleux, sur la nourriture. Le haram, non, ça c'est douteux, je mange pas, ça c'est relou. Parfois c'est de l'exagération. De l'exagération. C'est-à-dire que non, une personne t'invite, ouais, mais je mange pas chez lui, je sais pas où, d'où vient son poulet. Mais il mange chez lui, si Miguel pose la question, bah, où de poulet, où ça va acheter? C'est un musulman qui t'accueille chez lui. T'as pas à aller. D'accord? Je parle pas d'une relation commerciale, hein. Quand c'est un restaurateur, c'est autre chose. Il est là pour vendre. D'accord? Donc maintenant, si lui, ça ne lui pose pas de problème de prendre des poulets de Hollande, où il y a juste imprimé halal sur le carton, il vend. Non, là, il faut poser des questions. Mais je veux dire qu'il y a toujours un juste milieu. Il y a un juste milieu. Il faut pas non plus que ça arrive à un point où on va rompre les liens, familiaux. Et paradoxalement, quand on a des gens qui sont extrêmement pointilleux sur le halal, de la nourriture, mais ils travaillent avec la banque. Yahri, ma'koul, ça n'a pas de sens. C'est l'argent haram que tu prends avec la banque, c'est également de l'argent illicite que tu consommes et que tu fais consommer à ta famille. Autant que prendre quelque chose de douteux, c'est mauvais, ça, c'est pire. On n'est pas dans le douteux là, on est dans le gros là, on est dans du kaba et des zonomes. Donc il faut être cohérent, il faut être cohérent, il faut monter le niveau bien sûr, mais je veux dire que il faut pas. Le problème c'est que des fois on s'auto-persuade qu'on est vraiment au top, parce que voilà, il y a certaines actions que je fais, mais tu oublies que tu es dans certains péchés extrêmement graves, comme il y a certaines personnes que je connais également, qui sont voilà, ce point de vigilance sur la nourriture, mais quand on voit comment la personne s'habille dans la rue, il n'y a rien de la pudeur islamique, tant pour l'homme que pour la femme, plutôt que pour la femme, je veux dire. Et tu t'habilles, Allah musta'an, et tu fais beaucoup d'efforts sur le halal, c'est-à-dire, remonte ce niveau aussi. Il faut avoir un équilibre et une cohérence dans la pratique. Hada. Le cheikh cite également le hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari, radiallahu anhu, dans lequel le prophète alayhi salat wa salam a dit, c'est un hadith très connu, celui qui protège ce qui est entre ses joues et ses parties privées, comprenez, qui reste éloigné du zina. Qu'est-ce que le prophète m'a promis? Dakhala al-Jannah. Cette personne accédera au paradis. Hadith de l'imam Ahmad, authentifié par Al-Bani, rahimahullah. Ne pas faire le zina, c'est acquis, ça. Ça, c'est très clair. C'est très clair. Okay? Mais ce qu'on ne pensait pas, que le prophète a également cité comme condition pour accéder au paradis, contrôler sa langue. Alors moi je suis un bon croyant, je fais mes salats, j'ai la panoplie, la barbe qui, mashallah, il y a la totale, d'accord? Mais repas en famille du dimanche, hadith wala haraj. La ribat bohtana imam là, vendredi, du moment où Bayan dit ça, il ne connaît pas rien, l'autre là, on refait le monde et quel biryani j'ai en train de manger. Tu es en train de manger biryani karissa, biryani muftissa, biryani an. Tu es en train de manger la chair de tes frères. Le verset concernant le ribat, c'est quoi? Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi mayta. C'est comme manger la chair. La métaphore, elle est choquante. Il n'y a pas plus puissant que ça. Manger la chair du cadavre de ton frère. C'est exactement ça, le ribat. D'accord? Donc, voilà, protéger sa langue, c'est également une condition pour accéder au Jannah. Des fois, on se dit que peut-être c'est un peu exagéré, c'est extrapolé. Non, attention, quand on étudie l'ensemble des hadiths et qu'on va au dernier point, quand les gens qui ont fait beaucoup de bonnes actions, ils ont franchi le sirat, ils ont réussi toutes les étapes, il reste la dernière étape, les mazloum, les opprimés. Le fameux hadith du Mouflis, il y a des gens qui viennent dire « oui, mais il m'a insulté de ce dunya ». Oui, il a propagé des rumeurs sur moi. Il a dit des choses. Il a mis en danger mon couple. Il a dit des trucs. Il m'a fait du mal. Ben, les paroles que tu as prononcées, ça va te dépouiller de tes bonnes œuvres et tu seras obligé de prendre les péchés des opprimés. D'où le terme al-muflis, la personne qui est ruinée. C'est-à-dire que tu avais plein de choses, plein de bonnes œuvres et tu penses que le paradis est juste là. Et voilà, les méfaits de la langue et des agissements de ce dunya te rattrapent. Donc mes chers frères, là, je reviens là-dessus. Être un bon croyant, c'est pas uniquement ce qu'on fait là. La salah et les bonnes actions et le Coran, le dhikrullah tahajjud, tout ça, mashallah, nourun ala nour, c'est magnifique. Mais c'est également un état de vigilance, contrôle du regard, des oreilles, de la langue et ainsi de suite pour obtenir l'agrément d'Allah et avoir une vie qui est agréée par Allah. عز وجل. نعم نسألت على إن شاء الله. قال الله رب العزة accepte le temps qu'on a consacré à l'étude de ce nom Al-Hafiz, qu'Allah nous permet de comprendre ces paroles, même ce qu'on a déjà évoqué et oublié, que la lumière qu'il y avait dans de ces versets et de ces hadiths, des paroles des grands savants, trouve une place dans nos cœurs et nous permet d'améliorer notre quotidien et notre relation avec Allah Azza wa Jal, et qu'Allah nous accepte pour être parmi ceux qui préservent leur religion. Mais au quotidien, tu le tiens comme si, et c'est la chose la plus précieuse, et tu le tiens jusqu'à ce que la mort arrive. Et quand l'ange de la mort il vient, il a repris ton âme, et que tu es resté ferme jusqu'à la dernière instant, khalas, là tu sais que ta vie a été acceptée et agréée par Allah. Qu'Allah nous accorde ses qualités. Inch'Allah, lundi d'ensuite, mardi, on parle du mardi, un mardi sur deux, donc, le mardi là aussi, le mardi d'ensuite, on est à Montreuil, au cas où si une personne peut... ceux qui peuvent se libérer pour la sirat, autrement Mufti Assad fait Bukhari. Donc là, on est au summum de la connaissance. Et donc, dans deux semaines, Inch'Allah, on va commencer l'étude de Allah Azza wa Jal qui est Ash-Shafi, celui qui donne la santé. Celui qui donne la santé, on verra de quelles maladies on parle, des maladies physiques bien sûr, mais aussi et surtout des maladies spirituelles. Subhan Rabbika, Rabbil Izzati Amma Yasifuna, Salamun على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير.